Passions-nous ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta parole et donne-nous ta paix. Amen. Notre première lecture, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13, nous fait contempler le don de l'Esprit Saint qui rassemble et envoie l'Église en mission. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. »
Notre deuxième lecture, selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, nous montre le Christ ressuscité qui donne sa paix et son esprit à ses disciples, les envoyant en mission. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Chers sœurs en Christ, chers amis, dans un chapitre de son roman « L'idiot », il s'agit en fait du chapitre central, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski met dans la bouche du héros principal un discours alarmant. L'idiot, c'est-à-dire le prince Mishkin, un descendant d'une très vieille famille noble russe, souffrant d'épilepsie, revient d'un long séjour en Suisse où il est soigné par un spécialiste. Dans son discours improvisé au milieu d'une société de nobles, il dit à quel point il a été choqué en Europe occidentale par la négation de la personne de Jésus-Christ et de son héritage. Il craint que ce mouvement nihiliste, comme il l'appelle nihiliste, ne passe de l'Occident en Russie. Nous savons que cette crainte prophétique de Dostoïevski s'est réalisée d'une manière quasi apocalyptique en Russie, par les révolutions bolcheviques. Peu de temps après, et dans un pays dont la population passait pour la plus cultivée d'Europe, cela s'est produit dans le fascisme raciste allemand. Selon un témoignage conservé dans la correspondance personnelle de Hitler, celui-ci haïssait profondément Jésus-Christ tout en se gardant de le dire ouvertement et publiquement. Imaginons-nous le monde privé du message lumineux du Christ, du message de l'amour inconditionnel de Dieu qui veut agir dans la vie de tous, même dans la vie des gens les plus simples, comme dans la vie des pêcheurs de la Galilée. Donc pêcheurs, ceux qui pêchent. Dans la vie des gens en marge de la société, des hommes et des femmes abandonnés, méprisés. Le monde privé de la lumière, du rayonnement de l'Évangile, de l'espérance qui va bien au-delà de nos souhaits personnels, de l'amour qui, comme proclame Paul, ne finira jamais, ne finira pas ce qui est la plus courte définition de la résurrection. Que deviendra alors ce monde? Que deviendra l'humanité sans ce phare à feu fixe de la dignité humaine dans les orages, mais aussi dans les mouvements de vagues en apparence tranquille, voire séduisante, ou bien dans les vagues de fond qui emportent tout, pour ne pas parler du tsunami? Je me trouve dans le train de Zurich à Genève, où je prêche régulièrement à la paroisse tchèque. Le train est bondé d'une foule, chacun suspendu à son mobile dans un silence gênant. Seuls les soldats, au retour dans leur caserne, parlent, discutent, bavardent, plaisantent. Je ferme le roman de Dostoïevski et j'ouvre l'hebdomadaire dit Weltwoche, acheté à la gare de Zurich. Je tombe alors sur un article du professeur Klaus Schwab, du fondateur du World Economic Forum de Davos. Ne comprenant rien à l'économie, sauf que le prix du sandwich, pendant ces années où je vais à Zurich, le prix du sandwich à la gare de Zurich a tellement augmenté que je suis réduit à boire de l'eau en revenant du culte. J'attaque quand même la lecture de l'article. Il se penche sur le phénomène de la révolution technologique qui transforme l'économie et la société à une vitesse hallucinante à laquelle les systèmes politiques ne peuvent pas réagir. Les systèmes politiques sont dépassés. N'étant pas capable d'ouvrir correctement un ordinateur, je me sens pas coupable de cette vitesse vertigineuse de l'évolution. Seulement, l'article continue et ses propos commencent à m'intéresser. Prendre au sérieux cette évolution ultra rapide ne signifie pas s'y soumettre, mais de la former. Car la question principale n'est pas économique, mais civilisatoire. Si l'équilibre entre l'évolution économique, technologique et les systèmes politiques échoue, nous risquons de perdre ce qui tient ensemble notre société, la démocratie et la dignité humaine. Ainsi donc Klaus Schwab. La dignité humaine est menacée. La dignité humaine est au centre du message de l'Évangile et plus précisément dans notre texte de l'Évangile de Jean et dans ses parallèles dans les Évangiles dits synoptiques. Dans le train, je me mets alors soudainement animé d'un zèle missionnaire, comme ça peut m'arriver, je me mets alors à parler à un jeune Tessinois, très sympathique, mais avant que je ne puisse le convaincre de la solidité du témoignage du Nouveau Testament, et en sortant de ma sacoche le Nouveau Testament en grec avec toute la liste des manuscrits qui sont à la base de l'édition tellement solide du Nouveau Testament, il me quitte dans l'obscurité de la gare de Lausanne, ou bien plutôt dans les lumières de ses phares et de ses lampadaires réparés, restaurés, après avoir été saccagés par des fans de football frustrés il y a quelques semaines. Je continue mon voyage dans l'espoir que le train ne s'arrêtera pas définitivement à Alamans, comme cela m'est arrivé déjà à deux reprises. La dignité humaine a reçu un fondement décisif dans la vie, dans le message, dans les paraboles, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Rien ne peut l'ébranler, voire mettre en question. Dans la chambre fermée, au milieu de Jérusalem, les disciples doivent passer d'abord par le désespoir. Après l'événement terrible de la crucifixion de Jésus, une mort ignoble que subissent les esclaves et les criminels, rappelons-nous la crucifixion de 10 000 esclaves révoltés en Italie sous Spartacus lui-même, esclave gladiateur, en 71 avant Jésus-Christ. 10 000. Rappelons-nous la vie des esclaves de l'époque. Chaque 8e personne de l'Empire romain était esclave. Pensons aux abus physiques, exploitation, abus sexuels de l'époque. Les disciples, fermés, enfermés, verrouillés dans une solitude terrible, craignant le bruit des bottes des soldats romains ou bien des gardes du temple, ils font l'expérience d'un espace qui se rétrécit de plus en plus. On y étouffe. Tout le monde peut passer par une telle expérience d'un espace qui se referme. Nous savons que l'univers est infini, mais cela dans des situations où nous sommes serrés, enfermés, cela ne peut pas nous égayer ni aider. L'écrivain Boris Vian décrit dans le roman « L'écume des jours » un retrécissement terrible, fatal, de l'espace, avec les hommes à l'intérieur des maisons qui se rétrécissent, ratatinent. C'est peut-être l'image, l'expérience de la mort. C'est ce que les disciples vivent en ce moment, l'expérience de la mort, de la faim. Il n'y a plus de place pour eux, pour nous. La foi doit jaillir dans une telle situation, or elle ne peut pas vraiment jaillir sans la présence du Christ ressuscité. La place de la croix est précisément dans une situation sans issue. Le scandale de la croix, écrit Paul, c'est que Dieu, le Créateur de l'univers, est présent sur la croix. Toute autre idée de Dieu est païenne, dira Karl Barth, le grand théologien suisse. Le contraste ne peut pas être plus grand. Littéralement coincé dans une chambre verrouillée, les disciples découvrent par le Christ ressuscité, par le souffle de l'Esprit, le monde. De cette étroitesse, de ce presque rien, de cet espace qui n'est plus rien, ils découvrent le monde, les dimensions du monde. Mais en même temps, cet espace ne devient pas un espace qui terrorise, qui angoisse. Cet espace devient un espace de la mission, de l'ouverture. Allez-y, allez dans ce monde, n'ayez pas peur. L'apparition du Christ ressuscité et la Pentecôte que l'évangéliste Luc, qui a un sens historique, sépare, sont présentées dans ce texte de l'évangile de Jean simultanément. Dieu agit au milieu du monde en faveur de la dignité de l'homme. L'Église naît, existe par la mission et pour la mission, pour la transmission de la dignité que Dieu offre à tout homme. Or, pour transmettre, il faut être fier de ce que l'on transmet. Il faut être conscient, il faut être fier. Que l'Esprit de Dieu nous donne à notre Église, à nous, ses membres, la fierté d'être chargé aujourd'hui de cette magnifique mission de porter l'Évangile dans le monde. On ne peut pas transmettre que ce dont on est fier. Parfois, je me culpabilise et je me demande si dans les rencontres de catéchisme avec ces jeunes de 15-17 ans, est-ce que c'était assez clair? Est-ce que j'étais assez fier de ce que je transmettais? Ou j'étais plutôt un peu craintif face à tout ce que le monde, ce magnifique monde autour de nous présente? Le monde a été en effet changé par l'Église. Nous n'en sommes pas toujours conscients. On critique beaucoup l'Église, ses défauts, etc. Mais le monde a en effet été changé par l'Église, investi d'une dignité nouvelle. Le statut des ouvriers, des artisans, des paysans a totalement changé dû au fait que les disciples de Jésus venaient du monde du travail. Ils venaient du monde travail, c'était des gens les plus simples de la société. Et les paroles de Jésus s'y réfèrent constamment. Un nouveau cœur, un nouvel esprit doivent naître. Le grand connaisseur de la littérature occidentale, Erich Auerbach, l'a bien constaté. C'est dans son œuvre magistrale, Mimesis, sur lequel je suis tombé tout à fait par hasard dans une librairie à Genève, en traduction française. Cette œuvre magistrale a été rédigée par Auerbach dans son exil en Turquie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a d'ailleurs dit: c'était un petit peu une chance parce que j'étais loin des universités, et quand on est proche des bibliothèques, on veut toujours vérifier ce qu'on écrit, vérifier. Là, j'ai senti la liberté, j'ai écrit ce que j'ai pu. Alors voilà ce qu'il constate. C'est un ouvrage magnifique. Il y a une littérature avant Jésus-Christ, avant l'Église, et une différente après lui. Le statut des hommes du travail a changé. Le statut des hommes de travail a changé. Avant, on s'en moquait. Un ouvrier, un artisan, c'était rien dans une société bien hiérarchisée. D'ailleurs, il y a un terme grec, c'était juste un aparté, il y a un terme grec qui a survécu dans le dialecte viennois, banause. Et banausos, banause, c'est quelque chose d'assez méprisant en fait, mais banausos en grec classique et helléniste signifie un artisan. Donc un artisan, effectivement, à l'époque classique, c'était quelqu'un de plus ou moins méprisant dans la société fortement hiérarchisée. Dans le protestantisme, on a gardé ce respect du paysan, d'ouvrier, d'artisan. Mon grand-père, cordonnier, d'ailleurs j'ai vu une paire de chaussures fabriquées par lui, on ne fait plus de chaussures comme ça, même pas en Italie, et c'est déjà quelque chose. Et il était en même temps prédicateur laïque de sa paroisse, et pourtant dans cette paroisse il y avait deux ou trois directeurs d'école, un entrepreneur relativement fortuné qui a fait construire l'église, c'était tout à fait par hasard un deuxième grand-père. Il y avait une sorte de respect de l'homme, du travail. Et puis dans le mariage, dans la communauté chrétienne, s'imposait, sans qu'il y ait tout de suite une loi, s'imposait la monogamie. L'amour dont Paul parle et chante un hymne, l'amour généreux, ce n'est plus seulement l'amour érotique, mais c'est l'amour qui englobe tout, qui est généreux. Cet amour a conduit spontanément les chrétiens à vivre dans la monogamie. La monogamie chrétienne est à la base de l'émancipation. Le statut de la femme a changé fondamentalement. Avec une femme, on est bien obligé de discuter, de s'entendre. Avec un harem, on ne discute pas. Que l'Esprit de Dieu donne à notre Église et à nous, ses membres, la fierté d'être chargés aujourd'hui de cette magnifique mission de porter l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Amen.